Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
J'ai fait un épisode il y a très longtemps sur les chamans corporate. Et cet épisode que vous allez entendre, il est un peu particulier parce qu'on parle des psychotropes, des psychédéliques. Ça va remettre en question beaucoup de choses que vous croyez. L'idée, c'est certainement pas de vous dire de consommer, en particulier de pas consommer avec des personnes qui savent parfaitement ce qu'elles font. Donc je veux pas vous inciter à la consommation. Mais par contre, avec mon invité qui est Stéphanie Chaillet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Fantastica, on va parler des tests cliniques et de tout ce qu'on peut apprendre des psychédéliques. Donc je vous laisse avec cette conversation vraiment détonnante. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Tu vas bien?
Très bien, merci.
Bon. T'as écrit un bouquin qui s'appelle Fantastica, qui parle des psychédéliques. Généralement, en France, on associe les psychédéliques, donc le LSD et autres, et on va revenir dans le détail de ce que sont les psychédéliques, au mot drogue. Toi, dans ton livre, tu différencies les drogues des psychédéliques. Est-ce que tu peux faire la différence? Parce que c'est vrai que quand on parle de psychédéliques en France, j'ai la sensation que ça fait doucement rire tout le monde. On pense forcément à prendre des champignons et se marrer entre potes, etc. Mais ça n'a jamais rien de sérieux. Sauf que toi, ton livre s'appelle « Ces substances interdites qui guérissent ». Donc déjà, on est quasiment en opposition avec l'idée qu'on peut se faire des psychédéliques. Peut-être redéfinir ce que c'est qu'une drogue et le différencier
oui,
des psychédéliques.
Alors bien sûr, je différencie pas tellement drogue de psychédélique. Ce que je dis, c'est que le mot drogue n'est pas adapté pour aucune substance psychoactive, en fait, parce que il n'y a pas de définition scientifique ni même consensuelle du mot drogue. On ne sait pas si c'est la toxicité qui fait la drogue, si c'est l'illégalité qui fait la drogue, si c'est le potentiel d'abus qui fait la drogue. En fait, c'est une désignation arbitraire qui stigmatise. On sait qu'il y a des substances légales qui sont extrêmement toxiques, dangereuses, addictives, et il y a des substances qui ne sont pas légales, qui ne sont ni toxiques, ni dangereuses, ni addictives. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrête d'employer le mot « drogue ». Je préfère qu'on parle de substances psychoactives ou de psychotropes. C'est une définition qui est, pour le coup, indiscutable et scientifique. Et donc, dans cette grande famille des substances psychoactives, les substances psychédéliques sont une petite famille. Mmh. Qui compte quelques substances. Alors, je ne parle pas de leurs dérivés et de leurs analogues synthétiques parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de NPS, de nouveaux produits de synthèse, qui sont des dérivés des molécules psychédéliques classiques et qui elles ont une toxicité bien supérieure. Donc moi, je m'en tiens aux quatre principales substances psychédéliques dites classiques que sont le LSD, la mescaline, la psilocybine et la DMT.
Donc on retrouve tout ça dans les champignons.
Alors la psilocybine, effectivement, c'est le principal alcaloïde psychoactif des champignons hallucinogènes. Il y a environ 200 espèces qui en contiennent. La mescaline est plutôt dans les cactus, plusieurs variétés de cactus du continent américain. La DMT, on la trouve dans beaucoup d'espèces végétales sur toute la planète. Et le LSD, c'est la seule des quatre qui est née en laboratoire. Elle est dérivée d'une molécule naturelle, l'ergot du seigle, mais c'est une molécule synthétique. Elle est née pendant la guerre, enfin avant la guerre, mais ses propriétés psychoactives ont été redécouvertes en 1943 par Albert Hofmann, un chimiste suisse qui travaillait pour un laboratoire qui s'appelait à l'époque Sandoz.
Alors, ton livre, il a été repris dans certains médias français. Ça a généré énormément de critiques. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, selon toi, pourquoi ça génère autant de critiques? Pourquoi les gens n'arrivent pas à saisir la différence entre la cocaïne, l'héroïne, peut-être l'alcool, le sucre et ces substances-là? Pourquoi ils ont fait un amalgame total? Est-ce que la France est un peu en retard sur ces sujets-là? J'aimerais bien qu'on touche ce sujet-là, parce que sinon après on pourra après rentrer dans le détail de ce à quoi ça sert et comment ça peut effectivement te guérir ou en tout cas te permettre d'aller mieux. Enfin, mais j'aimerais bien qu'on tacle ce sujet-là dès le début, si ça te va.
Oui, bien sûr, c'est important. Alors, les sondages indiquent effectivement que les Français perçoivent les psychédéliques comme à peu près aussi dangereux que la cocaïne, alors que tous les classements qui ont été établis de substances psychoactives par dangerosité les classent parmi les substances les plus inoffensives pour l'individu et la société. Donc il y a vraiment un décalage énorme entre les perceptions et la réalité. Et je pense que ça tient au fait que il y a un énorme retard de connaissance en France sur ces substances qui est multifactoriel, mais l'une des raisons, c'est que la littérature scientifique qui s'est accumulée depuis 20 ans à l'étranger est en anglais et que la communauté scientifique en France ne lit pas tellement la littérature scientifique en anglais. D'ailleurs, quand je me suis étonnée que le congrès de l'Encéphale, qui est la grand-messe française de la psychiatrie, ne parle pas des travaux anglo-américains récents sur le sujet, son patron, Raphaël Gaillard, m'a dit que lui était au courant de ses travaux, mais qu'il y avait très peu d'orateurs francophones sur ces sujets. Donc ça, c'est une première raison qui fait que les connaissances scientifiques sont pas du tout diffusées en France. La deuxième raison, c'est que le tabou est inscrit dans la loi française. La loi française interdit en principe toute présentation sous un jour favorable d'une substance illégale, ce qui fait que en principe, je dis bien en principe parce que la loi n'est pas appliquée, heureusement, sinon j'aurais pas pu écrire mon livre. Mais donc en principe, on n'a pas le droit de parler des vertus thérapeutiques d'une substance illégale. C'est pour ça d'ailleurs que le débat sur le cannabis thérapeutique a pris un tel retard en France. Et donc même si elle n'est pas appliquée, ça suscite une forme assez poussée d'autocensure. Et d'ailleurs, donc tu parlais des réactions qu'a suscité mon livre. En l'occurrence, c'était plutôt une vidéo que j'ai faite pour Combini, qui a occasionné un déferlement de commentaires assez agressifs. Et donc, il y a eu parmi ces commentaires des gens qui font des rappels à la loi, qui disent Combini, on peut vous faire un procès, Combini, n'oubliez pas que qu'il est illégal de parler d'une façon positive de substances illégales en France. Voilà. Donc ça, à mon avis, sont les deux raisons principales pour lesquelles le débat a pris un tel retard chez nous. Après, il y a aussi des raisons culturelles qui sont plus complexes et sur lesquelles on peut revenir si tu veux.
Moi, il y a aussi ce truc. J'ai la sensation que moi, quand j'en parle de temps en temps, ça m'est arrivé en classe. Donc je parle de temps en temps de ça en cours où on me dit mais il y a des gens qui commettent des suicides. Qui vont parce qu'ils ont pris du LSD, des champignons, je ne sais quoi, vont sans doute avoir un comportement qui va les mettre à risque, sans comprendre qu'il y a des conditions d'abord de prise, et c'est peut-être aussi ça qui fait peur, tu crois pas?
Oui, alors l'histoire du suicide, ça c'est parce que justement les études ne sont pas diffusées, parce qu'on a quand même maintenant de très bonnes études épidémiologiques, des études de population sur des très grosses cohortes d'usagers, et là on parle d'usages non médicaux, hein. J'aime pas tellement le terme récréatif, mais en tout cas voilà, des gens qui ont pris des psychédéliques au cours de leur vie, donc on a une bonne idée de leur état psychologique, de leur état de santé. Donc on a une idée maintenant vraiment assez précise de l'impact de ces substances sur la santé publique. Il se trouve que cet impact est statistiquement positif, c'est-à-dire que les usagers n'ont pas plus de troubles psychiatriques que la moyenne. de la population, et ils ont même un risque suicidaire inférieur à la population. Voilà. Donc ça, c'est je pense que la peur du suicide serait assez facilement combattu si ces études étaient diffusées en France, étaient traduites en France. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, ce sont les risques d'ordre comportemental qui sont réels, c'est-à-dire qu'effectivement, l'altération des perceptions sensorielles, du jugement peut-être tel sous emprise de ces substances, surtout à très forte dose, hein, évidemment, qu'il est tout à fait possible d'avoir des comportements dangereux pour soi-même ou pour les autres. Alors, c'est heureusement assez rare. Je crois qu'on a recensé 4 ou 5 cas de chute mortelle, par exemple, sous emprise de psychédéliques en Europe depuis 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un risque très important, mais on ne peut pas le balayer non plus d'un revers de main. Il est important de rappeler les précautions d'usage dans le milieu clinique. Les gens qui prennent, les volontaires qui prennent ces molécules dans les études cliniques sont toujours encadrés, accompagnés. On les laisse jamais seuls dans une pièce. Et il n'y a jamais de complications à partir du moment où certaines précautions sont respectées.
Et alors, toi, tu t'intéresses à ces sujets-là dans un contexte qui était un peu particulier parce que tu as eu un cancer, c'est ça, je ne me trompe pas?
Oui, je me suis intéressée d'abord par curiosité professionnelle, hein, parce que je suis journaliste et donc j'avais fait une enquête pour le magazine Du Monde fin 2014, elle est sortie début 2015, je pense, sur la renaissance de cette médecine psychédélique. À l'époque, j'avais seulement effleuré le sujet. Mais j'avais été assez impressionnée et par les chercheurs que j'avais rencontrés, que j'avais trouvé assez héroïque parce que ce sont quand même des gens qui se sont battus pendant des années contre des obstacles administratifs assez considérables et sans financement pour donc essayer de faire la preuve que ces molécules pouvaient rendre service. Surtout par les volontaires de leurs essais qui étaient en l'occurrence donc des malades du cancer ou d'anciens malades du cancer qui avaient été acceptés dans ces protocoles parce qu'ils étaient soit très déprimés, soit très anxieux. Mmh. Et les résultats avaient été assez spectaculaires. Moi-même, j'ai eu un cancer, comme tu le dis, après. Je pense que ça a été un an ou deux ans après mon diagnostic. Et j'ai évidemment repensé à eux et voulu faire cette expérience moi aussi. Malheureusement, les essais cliniques étaient passés à d'autres indications. Il n'y avait plus d'études sur les malades du cancer. J'ai été obligée d'avoir recours à des voies, disons, plus souterraines.
D'accord, je comprends. Et alors, justement, puisque ton livre parle beaucoup de la guérison, quel genre de maladie ça peut guérir? Donc, tu as parlé du stress, de la dépression. On peut aussi peut-être parler de l'anorexie mentale. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas précisément jusqu'où ça peut aller. Pour les personnes qui écoutent, ça peut être intéressant de comprendre d'abord en quoi ça peut t'aider et comment. Alors, évidemment, on n'est pas en train de faire l'apologie de la prise de substances psychédéliques, évidemment, mais c'est intéressant de comprendre ces recherches.
Oui, alors il faut bien faire la différence entre les indications pour lesquelles on a des preuves et celles pour lesquelles on n'a pas encore de preuves. Celles pour lesquelles on a des preuves, ce sont la dépression résistante, la détresse psychologique liée à un diagnostic de cancer, donc troubles anxieux et dépressifs, mais liés donc à un diagnostic de cancer, et plusieurs dépendances, la dépendance au tabac, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux opiacés. Donc, dans ces indications-là, il y a eu des études solides pour lesquelles on a des preuves. Il y a d'autres indications pour lesquelles on a les chercheurs pensent qu'il peut y avoir un bénéfice, mais pour lesquelles on n'a pas encore de preuves. Dans cette famille-là, je mettrais les troubles obsessionnels compulsifs, l'anorexie mentale. Donc, il y a un essai clinique qui vient d'être lancé à l'université de Johns Hopkins, mais on n'a pas encore de résultats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La maladie d'Alzheimer. Ils sont en train de lancer un essai sur la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, il y a d'autres indications possibles. Les chercheurs que j'ai rencontrés m'ont dit qu'on est loin d'avoir fait le tour, mais on n'a pas encore de preuves scientifiques dans les indications que je viens d'évoquer.
Et quand on lit ton livre, il y a aussi cet exemple, il y a l'exemple de pas mal de d'auteurs connus, entre autres Sartre, mais pas forcément le meilleur, pas forcément la meilleure expérience pour lui, mais aussi Aldous Huxley, qui a demandé à prendre ça avant sa mort, enfin en fait sur son lit de mort finalement.
Ouais. Mm-hmm.
Pour moins stresser ou.
Oui, pour moins stresser. Oui, en fait, il avait déjà ce qui est très intéressant avec Huxley. Donc ça a été un des grands prophètes du psychédélisme parce que il avait entendu parler des études canadiennes d'un psychiatre britannique qui s'appelle Humphrey Osmond, qui donc donnait dans les années 50, dès le début des années 50, du LSD à des alcooliques pour favoriser leur sevrage. Ça l'avait beaucoup intéressé, donc il avait demandé à Osmond de venir lui donner de la mescaline. À l'époque, Osmond travaillait encore avec la mescaline. Il est passé au LSD après, parce que il était curieux en fait. Il voulait expérimenter. Il voulait. Il était empressé à servir de cobaye. et donc Osmond était venu à Los Angeles chez lui pour lui donner de la mescaline. Et il avait eu cette expérience mystique qu'il raconte dans son livre Les Portes de la Perception, un livre qui a énormément influencé la contre-culture, qui a eu un énorme impact donc sur le mouvement psychédélique dans les années 60. Et il est mort donc d'un cancer du larynx en 63, si je me souviens bien. Et avant même sa mort, il avait suggéré à Osmond de tester le LSD sur des malades en phase terminale. Et donc lui-même a demandé à sa femme, Laura, de lui en administrer sur son lit de mort, ce qu'elle a fait. Et donc Laura Huxley a écrit une longue lettre aux proches du défunt pour raconter cette... raconter ces derniers moments où elle dit que tous les médecins et les infirmières présents dans la pièce n'avaient jamais assisté à une mort aussi paisible. Et après ça n'est qu'après sa mort que sa prophétie en quelque sorte s'est réalisée, puisque le LSD en effet a été après expérimenté sur des malades en phase terminale dans divers hôpitaux américains avec des résultats très très prometteurs. Et c'est pour ça que quand les recherches ont redémarré il y a une quinzaine d'années, la première indication qui a été explorée a été celle justement des malades du cancer.
Mais alors aujourd'hui, il y a aussi un tourisme. On parle beaucoup. Moi, je fais pas secret du fait que j'ai essayé l'ayahuasca et pas mal d'autres substances, mais entre autres l'ayahuasca. Il y a aussi beaucoup un tourisme maintenant pour des gens qui vont bien, a priori, qui sont malades, entre guillemets, de la société individualiste. Donc, on peut revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce tourisme de masse autour des psychédéliques?
Alors, qu'est-ce que j'en pense
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux décrire aussi le phénomène? Parce que ce que tu décris dans ton livre, c'est des bidons d'ayahuasca qui arrivent à New York. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit phénomène.
Non, c'est un phénomène important qui est né en fait dans les années 2000, en fait, dans le contexte de l'écotourisme. Donc, les gens sont partis faire de l'écotourisme en Amazonie. Ils ont découvert l'ayahuasca et donc une sorte de tourisme. De tourisme chamanique, on va dire, s'est développé à partir du milieu des années 2000. Et assez rapidement, au bout de quelques années, les chamans sont venus à domicile, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que beaucoup de chamans sud-américains sont venus faire des tournées nord-américaines avec leur bidon d'ayahuasca, effectivement. C'est ce qu'ils appellent ici les curanderos roadmen, en fait, les VRP du chamanisme. Donc, effectivement, ça s'est énormément développé. On n'a pas, alors, c'est difficile d'avoir des chiffres fiables parce que tout ça est souterrain, évidemment. Mais tous les observateurs constatent qu'effectivement, ces pratiques ont explosé et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ce que j'en pense, c'est difficile, enfin c'est un sujet délicat parce que le tourisme chamanique, il y a des dérives qui sont incontestables, c'est-à-dire que il y a des charlatans, il y a des imposteurs, il y a des gens qui qui pratiquent le chamanisme sans aucun, sans aucune, enfin voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de, d'instance qui, il n'y a pas d'accréditation, donc je pense qu'il n'est pas forcément très prudent d'aller au Pérou consommer de l'ayahuasca sans être sans être bien orienté, bien renseigné et tout ça. Donc c'est pas quelque chose que personnellement je souhaite encourager, même si je connais beaucoup de gens qui l'ont fait avec avec beaucoup de bénéfices. Je pense que les pratiques en Amérique du Nord sont plus sûres, même si elles sont, même si elles restent clandestines, souterraines, etc. Elles sont plus sûres. Donc voilà, mais bon, ça n'engage que moi.
Hein, bien sûr. Non, bien sûr. Et d'après toi, qu'est-ce que ça dit de notre société que ce tourisme existe? En fait, c'est étonnant. L'ayahuasca, on n'a pas précisé ce que c'était. Peut-être qu'il faut repréciser ce que c'est et ce que ça fait, ce que les gens vont chercher quand ils le prennent. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société que des gens prennent ou qu'il y ait un tourisme qui se développe autour de ça, finalement?
Alors, l'ayahuasca, c'est une liane qui s'appelle donc l'ayahuasca et une sorte d'arbuste de la famille du caféier qui s'appelle la chacruna dans le langage courant. Et donc, ces deux plantes, quand on les réunit dans le même chaudron, si je puis dire, provoquent ont un effet psychoactif hallucinogène parce que la chacruna donc contient de la DMT qui est l'un des quatre psychédéliques classiques. Cette DMT, elle n'est pas métabolisée normalement par voie orale, mais dans l'ayahuasca, il y a des inhibiteurs de la monoamine oxydase qui sont en fait l'enzyme gastro-intestinale qui empêche la métabolisation par voie orale. Donc, elles permettent en fait d'avoir des effets psychoactifs par ingestion orale. Et donc, ce breuvage qui est employé en Amérique du Sud depuis des temps immémoriaux, est maintenant devenu très à la mode, effectivement, dans nos sociétés occidentales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense qu'effectivement, il y a une aspiration à réfléchir à tout ce qui fait du sens dans la vie. Il y a une aspiration à aborder les questions les plus élevées, je dirais. Donc voilà, le sens de la vie, notre place dans l'univers, quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, comment vivre au plus près de son idéal, quel rapport on a à la nature. Ces expériences favorisent un rapprochement avec la nature, c'est non seulement validé par d'innombrables témoignages anecdotiques, mais aussi par des études en laboratoire maintenant. Donc voilà, je pense que ça correspond à une aspiration assez profonde dans nos sociétés à réfléchir à tout ça.
Et d'ailleurs, quand on parle d'ayahuasca, on parle plutôt de médecine, beaucoup plus que de drogue, parce que finalement, alors d'abord, tu as expliqué au tout début que ce n'est pas forcément une drogue, mais surtout, ce n'est pas du tout récréatif en réalité.
Oui, enfin, dans les groupes traditionnels qui utilisent ces substances, effectivement, il s'agit de consommation dans un cadre qui est extrêmement ritualisé, encadré. Donc voilà, ça n'est pas récréatif. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de données sur les usages en Amérique du Nord, mais il me semble, moi, que l'usage dit récréatif n'est vraiment pas majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui prennent du LSD ou des champignons hallucinogènes pour aller dans des concerts, pour aller en boîte. Ce sont plutôt des drogues, des substances synthétiques qui sont prises dans ce contexte festif. Les usages de psychédéliques en Amérique du Nord sont plutôt des usages également collectifs, encadrés. Etc.
Parce qu'effectivement, en fait, on ne va plus trop prendre du MDMA, de la cocaïne, ce genre de produits, non?
Exactement, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que c'est une très très mauvaise idée de prendre des psychédéliques pour aller faire la fête, parce que les environnements chaotiques sont très anxiogènes, et comme ça rend assez vulnérable à l'anxiété, justement, on s'expose quand même à des expériences difficiles. Et j'en parle d'expérience parce que j'ai fait du bénévolat au Burning Man dans une tente qui s'occupe de réduction des risques, qui s'appelle le Zendo Project, et donc qui consiste à accueillir des gens en bad trip. Et oui, je peux te dire que les gens qui arrivaient étaient vraiment étaient très très angoissés. Je pense que surtout pour une première expérience ou pour des gens qui sont assez inexpérimentés, c'est une très mauvaise idée que d'expérimenter ces substances-là dans un contexte pareil. Voilà, c'était le petit message.
Non,
le petit message réduction des risques.
C'est important. Et alors, je voulais aussi qu'on fasse un lien avec la spiritualité. Parce qu'il me semble, en tout cas pour l'ayahuasca, c'est assez évident, et pour pas mal de produits, en fait, en tout cas les produits dont tu parles, il y a un vrai lien, je crois, avec cette quête de spiritualité. Tu en as parlé un petit peu dans cette quête de sens, finalement. Est-ce que tu crois que, j'ai la sensation qu'il y a un retour, alors peut-être que c'est parce que moi je m'y intéresse et du coup peut-être que c'est jamais parti et que simplement voilà, mais c'est vrai qu'il y a Nolan qui a écrit ce bouquin aux États-Unis, il y a Aude Le Floch qui a écrit qui est une pharmacienne qui a fait son doctorat de pharmacie sur l'ayahuasca, donc il y a quand même, j'ai l'impression, de la littérature qui sort de nouveau sur le sujet. Est-ce que tu crois que c'est lié à un besoin de spiritualité, une quête de sens? Quel lien tu fais entre les deux? Entre la spiritualité et les psychotropes.
Je pense effectivement que les occidentaux, pour parler un peu vulgairement, n'en peuvent plus de ne pas se sentir reliés à quelque chose qui les dépasse. Alors les gens sérieux parlent de déshérence, d'anomie, de perte de sens et tout ça. Mais voilà, oui, les liens sont, il y a une érosion des liens, il y a une rupture de plus en plus grande avec le monde naturel. La moitié de la population mondiale habite en ville désormais. Je pense qu'on sera à deux tiers en 2050. Les grands dogmes monothéistes dans le monde occidental sont en net recul. Donc effectivement, oui, je pense qu'il y a un besoin, assez aigu chez l'être humain de sens et surtout de connexion à des choses plus grandes que soi. Et c'est pour ça que les psychédéliques trouvent un tel écho dans nos sociétés.
Et l'une de mes dernières questions, c'est parce que tant qu'à parler de ces produits-là, on va aussi te tacler le sujet du microdosing. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le microdosing et est-ce que c'est lié aux recherches que tu as faites d'une certaine mesure? Et pourquoi les gens en prennent? Pourquoi c'est si à la mode aux États-Unis en tout cas?
J'en parle très peu dans mon livre en fait pour la raison qu'il n'y a pas d'études. C'est ça le problème. C'est très difficile d'en parler parce qu'il n'y a pas d'études. Il n'y a pas eu d'études contrôlées contre placebo. Il y a beaucoup de témoignages individuels. Mais on ne sait pas si c'est efficace.
Peut-être expliquer ce que c'est. Mesuré. Pardon.
Oui, alors le microdosing, ça consiste, microdosage, on devrait dire en France, ça consiste à prendre une fraction d'une dose récréative, en général le dixième d'une dose récréative, alors ce sont des doses qui sont si faibles qu'il n'y a pas d'effet psychoactif, c'est-à-dire qu'a priori on ne se rend pas compte, on n'a pas du tout de distorsion dans la perception, le régime qui est préconisé, c'est de prendre donc cette dixième d'une dose récréative tous les 3 ou 4 jours. Et c'est censé booster l'humeur, la créativité, etc. C'est devenu très à la mode aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. Et un peu comme en substitut, on va dire, de substances comme la Ritaline ou comme... de substances qui sont psychostimulantes en fait. Alors la légende c'est que Albert Hoffman, qui est donc l'inventeur du LSD, aurait microdosé à la fin de sa vie. Bon, on n'a pas beaucoup de preuves de ça, mais en tout cas c'est ce que dit James Fadiman, qui est le chercheur américain qui a remis le microdosage à la mode. Donc voilà, c'est effectivement à la mode. Je pense que c'est à la mode parce que comme il n'y a pas d'effet sensorielle très aiguë, les gens qui ont un peu peur du voyage psychédélique, c'est une sorte d'accès qui est un peu moins effrayant pour eux. Mais malheureusement, on peut pas beaucoup en parler sur le plan
clinique.
On peut pas beaucoup enfin, je peux pas donner d'informations factuelles parce qu'il y a pas assez d'études.
Je comprends. Et alors, on a parlé au tout début dans l'introduction de l'exception française. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette exception française? C'est-à-dire que au Portugal, ces produits-là sont, enfin, il y a un certain nombre de produits en tout cas qui sont complètement ouverts. On voit que, en tout cas pour le cannabis, il y a une partie qui est ouverte en Suisse, évidemment aux Pays-Bas, dans certains États des États-Unis, bon, dans un certain nombre de pays. Pourquoi en France, il y a cette exception qui fait que on est complètement fermé au sujet en fait?
Alors, les raisons sont très très complexes. Je pense que ce que j'ai évoqué au début de notre entretien, c'est-à-dire le fait que le tabou soit inscrit dans la loi, ça joue quand même parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de personnalités publiques qui parlent ouvertement de l'influence que les psychédéliques ont eu dans leur vie, sur leur pensée, des prix Nobel. Bon, Steve Jobs l'a fait, mais il y a aussi un célèbre professeur de psychologie sociale de NYU qui en parle, Sam Harris, qui est un neuroscientifique. Donc voilà, c'est beaucoup moins tabou. Donc en France,
beaucoup d'artistes aussi.
Je pense que notre plus célèbre psychonaute contemporaine, c'est Amélie Nothomb. Et quand elle ose en parler dans les médias, ses confidences sont accueillies avec une certaine gêne, parfois des moqueries, de la condescendance. Voilà. Donc ça, c'est déjà. Je pense que c'est une des raisons. Le tabou est une des raisons. Il y a aussi le fait qu'en France, il est de bon ton dans une certaine élite intellectuelle de haïr tout ce qui touche au développement personnel, qui est décrit en gros comme un nouvel opium du peuple. Et je pense qu'on doit cette résistance à nos penchants égalitaristes, collectivistes, la croissance personnelle, la transformation de soi, le potentiel humain, tout ça est perçu comme incompatible avec les luttes collectives, hein, en gros comme si c'était un jeu à somme nulle. Alors aujourd'hui, on dit que tout ce qui touche au développement personnel, c'est la preuve des ravages du narcissisme, du culte du moi, un peu comme le selfie. Ou alors on dit que c'est une servitude volontaire, un complot du capitalisme pour nous rendre plus productifs, plus dociles. Donc tout ça, sont des discours très français qui voient dans le développement personnel une maladie de l'individualisme et du néolibéralisme. Et je pense que du coup, les pratiques dont on vient de parler, hein, l'usage du psychédélique qui rentre quand même dans cette grande famille de la croissance personnelle, sont touchés par ces résistances très françaises. Et la dernière chose, je dirais, c'est qu'il y a une énorme méfiance en France qui confine à la paranoïa envers la manipulation mentale. On est le pays au monde qui est le plus obsédé par les dérives sectaires. C'est d'ailleurs en vertu d'une notion tout à fait fantaisiste, la soumission chimique que l'ayahuasca a été interdite en France en 2005 pour la MIVILUDE, qui est donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. L'ayahuasca est un redoutable outil d'emprise psychologique. Et d'ailleurs, on retrouve cette méfiance dans les discours critiques sur le coaching, où les coachs sont présentés comme des personnages manipulateurs. Alors, je ne prétends pas que ça n'est jamais le cas, évidemment. Il y a des chamans qui manipulent, il y a des coachs qui manipulent, mais c'est évidemment l'exception et non la règle. Et donc, si la vigilance s'impose, c'est un peu ridicule de jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est ce que les Français ont tendance à faire.
Mais pourtant, c'est marrant parce que l'alcool, pour moi, ça abrutit les masses, enfin, ou les foules. J'ai l'impression que l'alcool, c'est pas beaucoup mieux, et pourtant, c'est complètement possible d'en consommer.
Ah non, mais l'alcool, c'est pas que c'est beaucoup mieux, c'est que l'alcool est numéro un dans les classements des substances psychoactives les plus dangereuses pour l'individu et la société. C'est une substance qui est extrêmement toxique à tous les niveaux et effectivement qui est non seulement légale, mais on l'a vu célébrer par l'expérience du Dry January qui a été complètement torpillée en France par les lobbies par les lobbies alcooliers, vin, l'a bien montré. Ouais.
Mmh. Alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Eh bien, j'aimerais bien claquer la porte, je l'ai dit déjà, mais bon, il faudrait le redire, au mot drogue. Je voudrais qu'on arrête d'utiliser le mot drogue qui ne veut rien dire, qui stigmatise. Et puis, il y a toutes les idées reçues sur les psychédéliques. Je m'emploie à le faire, mais bon, on verra si ça marche. Et ouvrir la porte, ouvrir la porte à un débat. J'aimerais qu'il y ait en France un débat éclairé, c'est-à-dire fondé sur les preuves scientifiques sur les psychédéliques.
Super. Merci beaucoup, Stéphanie.
Mais merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée